RCF. L'invité du 18-19, Jean-Christophe Galeazzi.
Il nous accompagne depuis 18h15, Alain Renaud, auteur de Lyon pour un destin pour une autre France, aux éditions L'Harmattan, professeur en géostratégie et en géopolitique en France, à l'étranger, qui se consacre aujourd'hui à l'écriture et qui est lyonnais, alors qu'il était parisien d'origine. Alain Renaud, vous êtes passionné pour Lyon, vous le parisien, depuis que vous y vivez, au point d'y consacrer un ouvrage ?
Alors je suis passionné par Lyon, parce que déjà, lorsque j'étais à Paris, et j'y suis resté une bonne quarantaine d'années, j'étais déjà un régionaliste convaincu. Donc, je n'ai jamais approuvé le système
jacobin
et centralisateur français. Et lorsque je suis venu à Lyon pour des raisons professionnelles, j'ai été frappé par le poids de cette centralisation jacobine, qu'on ne réalise vraiment qu'en venant ici.
Alors
que lorsqu'on étant, exactement, lorsqu'on a traversé, on a fait l'effort de traverser le fameux périphérique parisien, on se rend compte à quel point notre pays est différent de la majorité des pays européens, ce qui constitue, à mon avis, un grave handicap pour la France et pas simplement pour une ville comme Lyon.
Alors Lyon fait partie de ce fameux désert français en quelque sorte. Est-ce que Lyon, paradoxalement, en souffre plus que d'autres parce qu'elle est la seule rivale potentielle ?
Oui, je pense que Lyon, effectivement, est la ville qui a le plus souffert historiquement du développement de Paris. L'attractivité de Paris s'est faite réellement aux dépens d'abord de Lyon et pas d'autres villes françaises. Donc on ressent cette caractéristique beaucoup plus à Lyon qu'on pourrait le sentir ailleurs. Mais en même temps, effectivement, Lyon ayant été deux fois, on pourrait dire, la capitale de ce qu'était notre pays autrefois, c'est-à-dire la Gaule, puis ensuite Lyon, capitale économique de l'Europe au XVIe siècle, c'est véritablement dans cette ville qu'on ressent le plus un certain déclin historique à partir du XVIe siècle dû à l'attractivité de Paris.
On va bien sûr, Alain Renaud, parler d'avenir, puisque c'est surtout à l'avenir que votre livre est consacré. Mais quand on parle d'histoire, Lyon aurait pu aussi, à un moment donné, être la capitale de l'Empire. C'était dans la tête de Napoléon. Est-ce qu'on n'a pas là raté une occasion unique ?
Je crois que Lyon aurait plus pu être la capitale du Royaume de France sous François Ier que sous l'Empire. Parce que sous l'Empire, Lyon était relativement moins bien placée au niveau géographique que ne l'était par exemple Aix-la-Chapelle, qui avait été la capitale de l'Empire carolingien. Donc je ne pense pas qu'on puisse avoir exprimé ce souhait, même si Napoléon a véritablement remis Lyon à flot après le fameux siège de Lyon qui a été épouvantable pour cette ville. Et même s'il a redressé les colonies lyonnaises, je ne pense pas que Napoléon avait véritablement en tête de mettre Lyon comme capitale.
Vous qui êtes parisien, est-ce que les Parisiens sont indifférents ou bien même condescendants à l'égard de Lyon ?
Je pense que les Parisiens ont inventé, comme disait André Malraux, un terme que lui-même haïssait, c'est le terme « province ». C'est-à-dire que les Parisiens ont inventé le plein et le vide, le tout et le rien, c'est-à-dire Paris et la province. Et Lyon, même si cette ville est un cran au-dessus des autres villes françaises, et c'est ça qu'il faut souligner, est considérée au même niveau que les autres villes françaises. C'est-à-dire qu'avec ce terme de province, on ne fait pas la distinction entre Landerneau, Besançon et Lyon. C'est le gros problème.
D'ailleurs, on utilise de moins en moins le terme de province. On dit on va en région, hein, pour ne pas dire province.
C'est ce que souhaitent en tout cas les habitants des régions françaises et ils ont bien raison, effectivement.
Alors, vous aviez l'air de dire au début de cette émission que la France n'est pas allée assez loin en matière de décentralisation, notamment. C'est également la thèse de votre livre. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tout simplement un fait historique ? C'est-à-dire que la France est jacobine parce que c'est son histoire, notamment depuis la Révolution, hein, parce qu'avant, c'était c'était quand même très différent, et que bien les pays à côté, hein, qui ont parfois une histoire plus récente, je pense à l'Italie, mais on pourrait parler de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre, etc., vivent de façon décentralisée depuis beaucoup plus longtemps.
Il est certain que c'est notre histoire qui est à l'origine de cette centralisation, mais comme l'avait dit Charles de Gaulle quand il a fait son fameux discours de 68 à Lyon, le discours de Lyon, l'effort multiséculaire de centralisation n'est plus nécessaire et aujourd'hui les régions sont les ressorts du développement économique. Et la France perd beaucoup en ne boostant pas ses différentes métropoles sur son territoire parce que nous avons un centre qui accapare tout et qui laisse effectivement à l'extérieur des villes qui pèsent certainement plus qu'avant, mais qui sont encore faibles par rapport à leurs voisines des autres pays européens. Et c'est véritablement, pour nous les Français, un handicap. Alors il est évident que la France a cette structure historique, mais ça n'empêche pas de faire une régionalisation à la française, et je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison, à partir du moment où il y a une unité, une identité française, pourquoi les Strasbourgeois et les Alsaciens, pourquoi les Toulousains et les habitants de Midi-Pyrénées n'auraient pas une autonomie beaucoup plus forte de leurs affaires.
C'est pas antinomique avec la vision de la France, une, indivisible, etc.
Absolument pas. Et justement, le reproche qu'on peut faire, et à mon avis, c'est véritablement un slogan creux, c'est de dire l'unité française est atteinte parce que la France est une et indivisible. Mais c'est pas parce qu'elle est une et indivisible que on ne doit pas prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont caractéristiques. Ça n'empêche pas l'unité de la France. Est-ce que l'Allemagne s'écroule parce que Munich a sa propre personnalité et Hambourg aussi? Est-ce que la Bavière a envie de faire sécession? Est-ce que le Schleswig-Holstein veut s'en aller? Non.
Okay, mais puisqu'on parle d'actualité dans cette émission, il y a bien des gens qui veulent faire sécession. L'Écosse, la Catalogne, il y a une réalité aussi d'émancipation de certaines régions.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le la risque... problématique qui se pose, par exemple, pour la Catalogne ou l'Écosse, n'est pas une problématique qui se pose en France. Parce que tout Breton et tout Alsacien se sent certes Breton et Alsacien, mais aussi Français. Et je ne pense pas qu'il y ait véritablement de revendication d'indépendance sérieuse en France.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'économiquement, ces régions n'ont pas le niveau de la Catalogne? Et que donc, imaginer l'indépendance d'une région en France, ça ne serait sans doute pas viable économiquement,
oui,
ou difficilement?
Oui et non, parce que vous avez maintenant dans l'Union européenne de tout petits pays,
oui,
comme la Lettonie, entre la Lettonie,
Malte, Chypre,
Malte, etc. Et puis si vous prenez en face une région comme, je ne sais pas, par exemple l'Alsace, ou même qui est une petite région, mais une région très solide, et puis bien entendu Rhône-Alpes, qui est une région, entre guillemets, plus artificielle. Mais
qui ne demande pas l'indépendance.
Qui ne demande pas l'indépendance, c'est exactement ça. Donc il ne faut pas confondre ces mouvements d'indépendance pour lesquels je ne suis pas favorable, parce que ces mouvements d'indépendance, en tout cas pour la France, parce que ça ne me paraît pas véritablement d'actualité, je ne pense même pas qu'à part quelques âmes exaltées, même si elles revendiquent leur identité, ça c'est qu'autre chose, que les Basques français revendiquent leurs identités, qui souhaitent avoir leur propre département, moi personnellement ça ne me gêne pas, mais que les Basques demandent, français demandent à être détaché du reste de la France, c'est ignorer toute l'histoire de France. Et tous les Français ont participé à l'histoire de France.
Alain Renaud, autre sujet d'actualité, évidemment, qui est lié à la sortie de votre ouvrage, c'est la réforme territoriale. On imagine, en vous écoutant et en vous lisant, que cette réforme territoriale, pour vous, elle ne va pas assez loin. Est-ce qu'on peut le dire ?
Je pense qu'elle ne va pas assez loin, parce que c'est une réforme qui est d'abord liée à la décentralisation, et pas à la régionalisation. Et la décentralisation, c'est un peu la déconcentration, c'est ce qu'on a fait pendant des années, mais on ne donne pas plus de pouvoir aux régions. Et donner plus de pouvoir aux régions, c'est pas forcément faire des roitelets, parce qu'à Paris, on aime bien les roitelets à roue sur les barons de province. Mais si y a corruption, elle se fait d'abord à Paris. Donc, avoir des régions et des capitales qui soient plus autonomes exige en même temps avoir des fonctionnaires, une fonction publique, des chefs d'entreprise qui soient intègres.
Je ne vois pas
pourquoi l'un ne se ferait pas et pas l'autre.
Vous voulez dire qu'il aurait mieux valu travailler sur les compétences qu'on attribue aux régions que sur des fusions de régions ?
Absolument, tout à fait. D'autant plus que les fusions de régions, pour certaines, sont largement justifiées, ne serait-ce que, parlons de la Normandie. Pourquoi avoir coupé la Normandie en deux ? J'ai toujours pas compris.
Et d'autres plus discutables ?
Oui, bien sûr.
Vous pensez à quelle région ?
Je pense en particulier à ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est ce projet qui va peut-être se faire ou pas se faire de fusionner l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne.
Je vois vraiment pas
ce que Champagne-Ardenne fait avec l'Alsace, qu'on fusionne. Mais le terme fusion, je le récuse. Parce que collaboration étroite, rapprochement, ok, mais fusion, en quoi la Franche-Comté et la Bourgogne, qui ont toujours été deux régions antinomiques depuis les Gaulois, vont-elles fusionner ? En quoi Lyon et Clermont-Ferrand vont-elles fusionner ? Ça n'a pas aucun sens. L'Auvergne, c'est l'Auvergne, et Rhône-Alpes, c'est Rhône-Alpes.
Alors, le temps file très vite. Alain Renaud, vous avez évoqué la métropole lyonnaise et son éventuelle place dans un concert européen des métropoles. Aujourd'hui, quels sont, selon vous, les principaux freins ? Est-ce que c'est un problème démographique, c'est-à-dire que Lyon n'a pas la taille de Barcelone, par exemple ? Est-ce que c'est un problème d'infrastructure ?
Je pense que l'idée de métropolisation est une bonne idée et je la soutiens. Par contre, c'est pas parce qu'il y a une métropole qu'elle va devenir forcément internationale. Le problème de Lyon, et ce que j'ai essayé de souligner en analysant un peu les composantes stratégiques de Lyon, c'est effectivement que cette ville a acquis un certain nombre de domaines où elle est maintenant bien engagée, comme par exemple, on pourrait dire, la culture, la gastronomie, le sport, l'enseignement, la formation. Là, dans tous ces domaines-là, je pense que Lyon a acquis une bonne qualification. On pourrait déjà être un peu plus... on pourrait aussi rajouter l'économie avec les pôles de compétitivité, avec la diversification unique qu'il y a à Lyon, avec les investissements étrangers. Mais là où on est encore en grande dépendance et en grand déficit, ce sont les communications intercontinentales, par évidemment l'aéroport, ce sont les médias et c'est la sociologie de la ville, parce qu'on n'a pas assez d'étrangers dans cette ville.
Alors que son positionnement géographique est stratégique, selon vous ?
Oui, tout à fait. Son positionnement est le meilleur, mais ça ne suffit pas pour attirer, forcément. Le positionnement géographique est un plus, mais ce n'est pas suffisant, bien entendu.
En matière de taille critique ?
Alors, en matière de taille critique, je pense que, et on ne le dit pas assez, Lyon a acquis une taille qui est précisément un cran au-dessus des autres métropoles françaises. Et je pense...
Mais un cran en dessous des métropoles européennes, je vous coupe.
Pas forcément.
Non.
Non, ça dépend lesquelles. Ça dépend quelle métropole européenne. Je pense que Lyon peut tout à fait maintenant être, non pas peut-être un modèle, mais en tout cas la deuxième et véritable ville internationale de France à côté de Paris. Plus petite, mais une véritable ville internationale. Alors que les autres villes, sans vouloir être condescendant en quoi que ce soit, pourront y arriver, mais un cran plus tard. Lyon, dans toutes les statistiques, est presque toujours au-dessus des autres villes françaises. Donc, c'est une ville qu'il faut booster. Et pour ça, il faut une volonté politique de le faire.
Au 1er janvier 2015, la métropole lyonnaise va être créée en tant que collectivité de plein exercice. Pour vous, c'est une étape importante. Est-ce que ça va entraîner un avenir positif pour Lyon ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous voyez positivement ou est-ce qu'on va en rester là où on est finalement et on ne pourra pas aller plus loin ?
Pour moi, le plus important, c'est pas la métropolisation. C'est le pôle métropolitain, c'est-à-dire l'étape au-dessus, c'est l'alliance entre Lyon, Saint-Étienne, le Nord-Isère et le pays viennois.
Donc, affaire à suivre. On n'est pas allé assez vite en termes de métropolisation ?
Je pense qu'en termes de métropolisation, on n'est pas encore, on n'a pas été encore assez vite, effectivement.
Quand d'autres
parce
qu'on
que
est allé
Lyon
trop vite.
Doit s'appuyer sur ses voisines et en particulier Saint-Étienne. L'avenir de Lyon, c'est Saint-Étienne. L'avenir de Saint-Étienne, c'est Lyon en particulier, parce qu'il faut être assez puissant pour pouvoir discuter avec les Chinois ou les Américains.
Bon, certains ne le pensent pas parce qu'il y a toujours cette rivalité, vous savez, entre Lyon et
Saint-Étienne.
Oui,
mais il faut quand on est à Shanghai et qu'on discute avec les Chinois, ils demandent où est-ce que c'est Lyon. Et si on leur dit Lyon, c'est là. Mais si on leur dit Lyon, c'est ça plus Saint-Étienne, plus ceci, plus cela. Là,
ça commence à compter.
Ça commence à compter. C'est ça qu'il faut regarder.
Merci beaucoup, Alain Renaud. Je renvoie à votre ouvrage Lyon, un destin pour une autre France aux éditions L'Harmattan pour en savoir plus sur les chances de Lyon dans l'avenir et dans donc les prochaines années avec cette métropolisation que vous appelez de vos voeux. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à
et
vous.
Et on passe à notre page culture.